Voici le journal de Christelle Rebière. Bonjour Christelle.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avec à la une ce matin, un nouveau sésame dès lundi, le pass vaccinal plus restrictif. Il entrera donc en vigueur et les restaurateurs priés de vérifier l'identité de leurs détenteurs. À la une également, Christelle, un espoir face au Covid.
Oui, un spray nasal pourrait bloquer le virus dans les narines avant qu'il ne se fixe dans le corps. Mis au point en France, il devrait être testé dans les prochains mois sur l'homme. Les violences du mois de novembre en Guadeloupe ont été planifiées et organisées, avec notamment la complicité d'un policier. Le procureur de la République accuse. 8 personnes ont été mises en examen. Dans ce journal aussi, Donald Trump était prêt à tout pour ne pas perdre, même à faire saisir les machines électorales. Et puis nous prendrons un train de nuit en espérant arriver à destination. C'est pas gagné.
Et puis à partir de 8h20, sur les rails de la précarité, la pauvreté en France, un thème un peu oublié de la campagne électorale. Eh bien, on va en débattre à partir de 8h20 avec Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre.
France Inter.
Tâton passe, la question se posera dès lundi matin avec l'entrée en vigueur du pass vaccinal. Les tests ne permettront plus d'aller au restaurant ou de boire un verre, il faudra être vacciné. Une tolérance est prévue après la première injection pour inciter les plus rétifs. Le Conseil constitutionnel a validé hier le projet de loi du gouvernement tout en exigeant qu'il y soit mis fin dès que la situation sanitaire le permettra. Et les restaurateurs devront bien vérifier non seulement le pass mais l'identité de celui qu'ils présentent, ce qui ne les réjouit pas forcément. Reportage à Paris, Benjamin Illy.
C'est de la folie ce truc.
C'est décidé pour Roland Hermé, propriétaire d'une brasserie dans le 15e arrondissement, vérifier l'identité des clients.
Ah non, ça je suis contre. Tout à fait, je le ferai pas. Je suis pas assermenté, je suis pas commissaire de police.
Bah, les clients vont mal le prendre, ils vont faire demi-tour, ils vont partir. Déjà qu'on a un chiffre d'affaires qui a pété de plus de 50%, c'est dramatique.
Ah ben, un client qui remet son masque.
Je suis peut-être qu'un vieil âne, j'ai plus de 60 ans. Moi, ça ne dérange pas. Il faut quand même raison garder. Il y a quand même des pays où l'on souhaiterait pouvoir présenter carte d'identité et passe vaccinal parce que nous sommes vaccinés. Voilà.
6e arrondissement, on a changé de secteur. On rentre dans un établissement assez chic.
Voilà, c'est pas la peine de faire de la polémique quand il ne faut pas faire de la polémique.
Massimo Mori, c'est le responsable de cet établissement. Donc une partie brasserie, une partie restaurant étoile.
Ces raisonnements, je l'ai entendu 1000 fois dans ma carrière. Ça fait 50 ans que je suis dans ce métier. On en a marre des règles. Mais s'il faut le faire, il faut le faire. C'est pour notre bien, c'est pour le bien de tout le monde, c'est pour le bien pour les clients. Plus nous suivons ces règles et plus les choses y vont se calmer.
Et Massimo Mori va devoir s'adapter. Il envisage de faire appel à un extra lors des fortes affluences du week-end pour mener à bien ces vérifications d'identité.
Et celui qui utiliserait le pass d'une autre personne risque 1000 euros d'amende. L'épidémie galope toujours avec plus de 400 000 contaminations ces 4 derniers jours. Mais outre les vaccins, de nouveaux médicaments vont arriver sur le marché. Et il y a aussi beaucoup d'espoir du côté d'un spray nasal. Une équipe de chercheurs français de l'INRAE et de l'Université de Tours viennent de franchir une étape clé, celle des essais sur les animaux, très prometteuse. Les essais sur l'homme devraient donc démarrer à la fin de l'année, Sophie Becherel.
Bloquer le virus au niveau des narines, c'est le principe de ce candidat vaccin. Ainsi, il ne gagnerait ni les bronches ni les poumons. Le concept, déjà éprouvé en médecine vétérinaire, notamment contre la toxoplasmose chez le singe, est basé sur la protéine Spike, mais aussi sur d'autres protéines du virus du Covid. Ainsi, il serait efficace sur tous les variants. Les premiers résultats sur les souris et les hamsters sont probants, révèle Isabelle Dimier-Poisson, la responsable de l'équipe de recherche à l'INRAE.
Ces résultats ont pu montrer que notre vaccin, protégé vis-à-vis des formes graves de la Covid-19 et était en capacité d'arrêter une contagiosité et donc on peut supposer d'enrayer donc la transmission du virus.
Un brevet a été déposé fin 2021, une start-up est créée pour la future production. L'ANRS Maladies Infectieuses Émergentes a financé à hauteur de 900 000 euros le projet, un soutien qui ne doit rien au hasard selon son directeur adjoint Hervé Raoul.
Le point fort, c'est l'approche, la voie d'administration qui a été choisie. Donc c'est quelque chose qui était innovant. Plus évidemment, tout ce qui a été fourni en termes de résultats et de concepts a permis de se dire que ça valait vraiment le coup de pouvoir aider financièrement et scientifiquement à la poursuite du projet. Ensuite, il reste quand même un certain nombre d'étapes, et notamment la partie essais cliniques qui sera extrêmement importante.
Essais qui vont démarrer à la fin de l'année pour une mise sur le marché fin 2023.
À l'autre bout du monde, le Covid gâche la fête. Le carnaval de Rio est reporté compte tenu de la pression d'Omicron au Brésil. Les écoles de samba ne pourront pas défiler avant fin avril.
L'actualité en Guadeloupe avec le j'accuse du procureur de la République.
Oui, depuis 3 mois, les émeutes et les violences s'enchaînent. Il y a 2 jours encore, un gendarme a été blessé par balle. On se souvient en novembre des barrages, des pillages de nombreux magasins et même de l'incendie d'un immeuble. Le procureur vient d'ouvrir une information judiciaire et de mettre en examen 8 personnes. Patrick Desjardins affirme que tout avait été savamment orchestré avec même la complicité d'un fonctionnaire de police.
L'ensemble des émeutes, des violences urbaines intervenaient en réalité dans un cadre qui était parfaitement organisé et extrêmement planifié. Il n'y a pas eu de choses spontanées les soirs des 18, 19 et 20 novembre. Tout s'inscrit dans une stratégie élaborée. Il est en effet question d'un partage de rôle entre les jeunes de Bemao, de Pointe-à-Pitre et notamment de Grand Camp, que chacun dans sa partie de territoire sème la panique et bien bénéficier non seulement de la complicité d'un fonctionnaire de police qui n'hésitait pas à apporter des éléments très précis sur le positionnement de ses collègues pendant les nuits d'émeute. Le but était d'une part d'obtenir des sommes conséquences de la part de grands groupes en échange de la promesse de ne pas lancer les émeutiers contre leurs intérêts. Ce dossier, c'est celui d'une bande organisée qui a sans doute perçu l'opportunité du climat social pour commettre des infractions dans le but de pouvoir, in fine, aboutir à la perception dans des conditions frauduleuses de sommes vraisemblablement considérables.
Le fonctionnaire de police a été placé sous mandat de dépôt. Le couvre-feu a été abaissé à 18h à Pointe-à-Pitre. Et de Troyes, l'eurodéputé Gilbert Collard est la 3e personnalité à quitter le Rassemblement national cette semaine pour se rallier à Éric Zemmour. Il sera d'ailleurs présent au meeting du polémiste devenu candidat ce soir à Cannes devant 4000 personnes. Du côté de chez Marine Le Pen, on minimise. Gilbert Collard ne faisait rien et se contentait d'avoir un poste. Fin de citation. À gauche, à 5 jours du scrutin de la primaire populaire, Christiane Taubira affirme ce matin dans Libération que si elle perd à cette primaire, elle se ralliera au vainqueur. Mathilde Himmer, porte-parole de la primaire populaire, sera l'invitée de Karine Bécard à 7h50 sur France Inter. À l'étranger, des documents embarrassants pour Donald Trump qui montrent une fois de plus qu'il ne pouvait en aucun cas envisager une défaite l'an dernier. La commission d'enquête parlementaire sur l'invasion du Capitole vient d'obtenir la preuve que l'ancien président a tout tenté pour rester à la Maison Blanche. Il a même pensé faire saisir les machines électorales à Washington. Sébastien Pau.
Le projet de décret que s'est procuré le très sérieux site Politico est daté du 16 décembre 2020, soit quasiment un mois avant le départ de Trump de la Maison Blanche. Et il ordonne au secrétaire à la Défense de saisir les machines à voter, prétendument piratées, de les conserver et d'analyser toutes les informations conservées électroniquement. Le texte de 3 pages lui donne aussi 60 jours pour rédiger une évaluation de la présidentielle de novembre et il prévoit de nommer un conseiller spécial chargé d'enquêter sur l'élection ainsi qu'un procureur spécial chargé lui de porter plainte pour chaque allégation de fraude. Toutes ces idées ont été proposées au président sortant par ses conseillers lors d'une réunion qui s'est tenue dans le bureau ovale le 18 décembre. Trump n'a finalement jamais signé le projet d'ordonnance qui de toute façon n'avait aucune chance d'aboutir parce qu'il n'y avait aucune menace à la sécurité nationale pour le justifier. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Russes et Américains se donnent rendez-vous la semaine prochaine pour évoquer de nouveau la crise autour de l'Ukraine qui menace toujours de dégénérer. La Russie continue de nier toute intention d'invasion, mais exige la garantie du non-élargissement de l'OTAN à ses anciens pays satellites, dont l'Ukraine, ce que les Occidentaux considèrent comme une ligne rouge.
Dans les gares, le retour raté des trains de nuit.
Oui, ils avaient peu à peu disparu, faute de voyageurs. Ils ont été relancés par le gouvernement, moins chers, peu polluants, avec la belle idée du temps long. Mais entre les travaux sur les voies, la vétusté du matériel, le manque de personnel, eh bien ces trains-là n'arrivent pas toujours à destination. Ce que déplore Pascal Daubouin du collectif Oui au train de nuit.
Sur le Paris-Tarbes-Lourdes, on a effectivement des personnes qui ont été débarquées à Toulouse en très tôt le matin avec un froid matinal qui n'était pas des plus agréables. Il y a des pépins sur cette ligne Paris-Lourdes-Tarbes. Ce n'est pas uniquement du matériel, il y a aussi un peu de manque de personnel. Alors on espère aussi que l'État va aider la SNCF à recruter, puisque la SNCF est un peu bloquée pour les embauches de conducteurs et de personnel. Donc il faut mettre les moyens pour ces trains de nuit. Ce qu'on attend, c'est l'étape d'après, c'est-à-dire l'investissement sur du matériel neuf. Ça fait 5 ans qu'on se bat pour les remettre en place, donc évidemment, on est vigilant.
Pascal Daubois, interrogé par Fabien Cazot. Après les trains qui n'arrivent pas, ceux qui ne partent pas, évitez de prendre le train dans le sud-ouest lundi. Une grève des aiguilleurs va fortement perturber le trafic. 85% des TGV Paris-Bordeaux sont annulés. Aucun TGV plus au sud vers Hendaye et Toulouse. Et le trafic régional sera aussi très affecté, seulement un tiers de la circulation habituelle. La CGT et l'UNSA réclament notamment une meilleure gestion des fins de carrière. Elle, elle a su gérer, elle est même allée tout au bout d'elle-même sous une chaleur plombante. Alizé Cornet s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie en retournant la situation face à la Slovène Zindanchek, 4-6, 6-4, 6-2. Et en plus, c'était le jour de ses 32 ans. Joli cadeau.
Ouais, 32 ans et toujours sur le terrain en grand chelem. Chapeau pour Alizé Cornet. C'était le journal de Christelle Rebière. Le temps.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski, une carte météo avec les mêmes paramètres qu'hier.
Ah, exactement, la situation n'évolue pas avec toujours un bon ensoleillement aujourd'hui du sud-ouest aux régions méditerranéennes. En revanche, plus haut, là le ciel est chargé, il laissera généralement peu de place aux trouées. Ce matin, les températures sont froides dans la partie sud, sous le ciel clair, avec par exemple moins 7 degrés dans les terres provençales, moins 6 sur le Lot, moins 5 à Albi, contre 3 à 5 degrés sur le Finistère, la région parisienne et les Hauts-de-France. Cet après-midi, statu quo par rapport à hier, avec 10 à 14 degrés autour de la Méditerranée, 6 à 9 du Limousin au sud de la Garonne, sur le centre et du nord de la Loire à la Belgique, et 4 à 6 degrés du Dauphiné en remontant vers le Grand Est et sur l'Auvergne.
Jean-Michel Golinski de Météo France.